RFI, il est 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel et à Nouakchott. Un nouveau journal consacré à l'actualité africaine avec vous, Édouard Dupénoat.
Trois poids lourds dans la course électorale, ou en tout cas dans l'idée, la Mauritanie est à la une de cette édition de l'actualité africaine, où les déclarations de candidature s'enchaînent pour l'élection présidentielle de la fin du mois de juin. Une rencontre entre des responsables américains et des membres de la transition nigérienne. Ouverture aujourd'hui des débats concrets sur le retrait des soldats américains du territoire. 25 avril, journée de lutte contre le paludisme, alors que les vaccins font enfin planer un espoir tangible contre la maladie. 25 avril toujours, anniversaire de la révolution des œillets au Portugal. Comment les ondes radio ont porté à l'époque le combat des indépendantistes qui ont fissuré le pouvoir de Salazar. Épineuse question aussi en fin de journal, comment réguler les contenus haineux écrits sur Internet dans des langues que les géants du web ne comprennent pas. Plusieurs régulateurs africains signent une déclaration qui va dans ce sens à Abidjan. Le président mauritanien annonce sa candidature pour l'élection présidentielle du 29 juin. Ses services diffusent aux médias une lettre ouverte dans laquelle Mohamed Ould Cheikh Razwani confirme qu'il briguera un second mandat de 5 ans. Il devrait notamment y affronter Biram Dahabed. L'opposant, arrivé deuxième lors de l'élection de 2019, se lance lui aussi dans la course. Autre poids lourd qui fait part de sa volonté d'y aller, Mohamed Ould Abdelaziz, l'ancien président qui purge une peine de 5 ans de prison ferme. Il avait été condamné au mois de décembre dernier. Ses avocats ont fait appel. A-t-il le droit ou non de se présenter? Question juridique qui a ses soutiens et ses détracteurs, Léa Breuil.
Les responsables du parti en cours de création de l'ancien président ont déclaré samedi que Mohamed Ould Abdelaziz se présente sans hésitation au scrutin. Mohamed Ould Jibril, responsable du parti Front pour le Changement, dénonce une condamnation politique de l'ancien président. Selon lui, sa candidature est nécessaire pour, je cite, sortir le pays de l'impasse dans laquelle il se trouve.
90% des citoyens réclament le retour du président Mohamed Ould Abdelaziz parce qu'ils ont constaté que la situation économique s'est dégradée, la situation sécuritaire s'est dégradée. Il est en prison parce que il n'a pas voulu céder. Les gens voulaient qu'il quitte la scène politique. Mais lui, il a dit toujours qu'il va rester pour défendre le peuple mauritanien.
Selon Maître Taleb Kia, l'un des avocats de l'ancien président, rien n'empêche juridiquement Mohamed Ould Abdelaziz de se présenter aux élections tant que la cour d'appel n'a pas rendu sa décision.
Dès l'instant où on a fait appel, il doit bénéficier de ses droits civiques. L'appel est suspensif parce que la condamnation n'est pas suivie d'un mandat de dépôt.
Maître Lo Gourmaud, avocat de la partie civile, confirme que l'ancien président jouit encore de la totalité de ses droits civiques jusqu'à la décision. Mais selon lui, sa candidature n'est pas recevable. Il met en avant l'article 28 de la Constitution mauritanienne qui prévoit que le président de la République est rééligible une seule fois.
Le texte constitutionnel mauritanien est très clair. Il a fait ses deux mandats. Ce n'est pas successif comme le Sénégal et la France. Ils font du cinéma.
Une interprétation que conteste l'avocat de la Défense. Pour valider sa candidature, Mohamed Ould Abdelaziz devra recueillir les signatures d'au moins 100 conseillers municipaux. Le Conseil constitutionnel officialisera fin mai la liste des candidats autorisés à se présenter. Léa Breuil-Nouakchott, RFI.
Une première réunion concrète aujourd'hui à Niamey pour planifier le départ des soldats américains. L'ambassadrice des États-Unis ainsi qu'un haut gradé vont rencontrer dans la capitale nigérienne des membres du CNSP pour commencer à plancher sur un calendrier précis du retrait des troupes. On rappelle qu'en fin de semaine dernière, les États-Unis confirmaient bien que le principe de ce départ était validé. Reste donc, Guillaume Nodin, à en définir les modalités concrètes.
Des discussions sur un retrait ordonné et responsable des forces américaines du Niger, c'est ce qui commence aujourd'hui à Niamey. Côté américain, c'est l'ambassadrice au Niger, Kathleen Fitzgibbon, et le général de division Ken Heckman, directeur de la stratégie, de l'engagement et des programmes du commandement des États-Unis pour l'Afrique, qui rencontrent les membres du CNSP. Et ce n'est qu'un début. La semaine prochaine, d'autres hauts responsables militaires américains tiendront des réunions de suivi à Niamey. Ces discussions sur le processus de retrait doivent se tenir dans la transparence et le respect mutuel, indique le communiqué du département d'État. Selon le porte-parole de la diplomatie américaine, les États-Unis sont fiers de la coopération de sécurité avec le Niger au fil des ans. Toutefois, les discussions depuis juillet 2023 n'ont pas permis de trouver un accord avec le CNSP pour poursuivre cette coopération. En revanche, le partenariat entre le Niger et les États-Unis va se poursuivre dans d'autres domaine d'intérêt commun. Le secrétaire d'État adjoint américain est annoncé dans les prochains mois à Niamey pour en parler, mais les soldats américains, eux, vont partir. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'armée du Burkina Faso suspectée d'avoir commis 2 massacres de masse contre des villageois. Human Rights Watch publie ce matin une enquête qui accable les forces de sécurité burkinabées accusées d'avoir abattu plus de 220 personnes. Il y a 2 mois, dans la province du Yatenga, dans le nord du pays, les militaires auraient rassemblé les villageois avant d'ouvrir le feu dans ce qui semble être des représailles après une attaque terroriste contre l'armée et ses supplétifs civils. Il faut attendre le mois de décembre pour le rapport annuel de l'OMS sur le paludisme pour voir à quel point les chiffres de mortalité de la maladie vont marquer le pas cette année. Mais en ce 25 avril, journée mondiale de lutte contre le palud, il n'est pas inutile de rappeler que le moral est à l'optimisme. Même si la malaria a tué encore 600 000 personnes dans le monde en 2022 et que 95% des victimes se trouvent sur le continent africain, il y a enfin des vaccins. Ils sont officiellement validés, recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Une 20aine de pays du continent commencent d'ailleurs à les déployer en masse. Kaourou Magassa, de quoi espérer une avancée très solide contre ce paludisme.
Il aura fallu plus de 30 ans pour développer un vaccin efficace contre le paludisme. Le premier, le RTS.S, a été approuvé par l'Organisation mondiale de la santé en 2021, après 2 années de tests. Depuis 2019, près de 2 millions d'enfants à risque ont bénéficié du vaccin antipaludique au Ghana, au Kenya et au Malawi, entraînant une baisse du taux de mortalité infantile lié à la maladie de 13% selon l'UNICEF. En novembre 2023, le Cameroun a lui reçu ses premières doses, mais ce n'est qu'au mois de janvier que ce pays d'Afrique centrale a été le premier à développer un programme de vaccination systématique et gratuit pour sauver des milliers d'enfants. Les enfants de moins de 5 ans sont en effet les principales victimes du paludisme et représentent 80% des décès dans le monde. Il est donc recommandé d'administrer les vaccins en nourrissons dès l'âge de 5 mois à raison de 4 doses dans les zones de transmission modérées et élevées. Selon l'organisme Gavi, l'Alliance du vaccin, une 20aine de pays d'Afrique, et c'est déjà le cas au Burkina Faso, devraient intégrer dès cette année des programmes de vaccination dans le cadre de leur politique de lutte contre le paludisme.
Kaourou Magassa, un coup d'État au Portugal et le début d'une ère décoloniale. Autre anniversaire ce 25 avril, celui de la révolution dite des œillets. Il y a 50 ans, avril 74, un putsch allait donc renverser António de Oliveira Salazar. Le séisme qui ébranle ce pays de l'ouest de l'Europe aura bien sûr des répercussions sur les colonies portugaises en Afrique. De nombreux chefs d'État africains sont d'ailleurs attendus aujourd'hui à Lisbonne. Pour rappeler aussi que la chute du régime de Salazar s'est enclenchée grâce au mouvement indépendantiste notamment. Écoutez le rappel que nous en donne Mario Sissoko. Lui est bissau-guinéen, il était compagnon de lutte avec Amilcar Cabral.
Parce qu'on avait une radio à Conakry, la radio Libération. On communiquait en créole, en portugais et dans les langues vernaculaires pour sensibiliser toutes les populations des zones contrôlées par les forces coloniales et même les troupes portugaises. On les mobilisait comme ça, à travers la radio. Et aussi, notre puissance de feu était supérieure à la puissance de feu des forces portugaises. Il y avait une union pour la libération. Même les officiers portugais qui ont contribué même à fomenter le coup d'État militaire au Portugal le 25 avril, beaucoup sont passés par en Guinée-Bissau. Beaucoup. Ils ont plus de morts en Guinée-Bissau qu'ailleurs. Plus de blessés en Guinée-Bissau qu'ailleurs.
Et les jeunes Portugais ne voulaient plus faire un service militaire de 4 ans au risque de mourir dans votre pays?
Oui, ils désertaient. Nous-mêmes, les prisonniers politiques, on les libérait. On les remettait à la Croix-Rouge internationale. Tout ça, ça a joué un rôle dans la mobilisation politique des soldats portugais.
Cet entretien complet que nous donne Mario Sissoko, vous le retrouvez sur notre site rfi.fr. Le Tchad est ce matin à 11 jours de son élection présidentielle. La campagne continue son cours pour les 10 candidats qualifiés pour l'élection. Des candidats à qui RFI continue de donner la parole. Les projets, les promesses et les programmes ont en ce matin notre micro à Nasra Djimasengar, président du parti Le Nouveau Jour, dont l'un des thèmes de campagne, c'est la lutte contre la cherté de la vie et contre la corruption. Première piste de travail urgente à ses yeux, remettre complètement à plat la manière dont l'argent public est dépensé.
Si nous voulons sortir de cette chèreté de vie, il suffit tout simplement d'assainir les finances publiques. Quand, par exemple, les marchés publics deviennent carrément un club de corruption où on va se retrouver avec des généraux commerçants, on va se retrouver avec des ministres commerçants, les autorités s'attribuent à elles-mêmes les marchés. Ils créent des entreprises fictives. Ces marchés ne sont pas réalisés. Comment voulez-vous que la vie ne soit pas chère. Nous allons procéder à une rééducation de tous ceux qui seront associés à la gestion de la chose publique. Ce qui est public appartient à tous. Si on y touche indûment, notre place est en prison. Ça, il n'y a pas de négociation possible.
Nasra Djemasengar avec Carole Valade. Des représentants de médias, de structures de régulation et des gigantesques plateformes numériques qui avancent enfin vers une meilleure coordination de cette régulation en ligne. Nous sommes à Abidjan qui accueillait 2 jours de rencontres sur le sujet avec des points très concrets. Comment donner au pouvoir public le moyen de signaler des contenus illicites? Comment modérer des contenus écrits dans des langues auxquelles les méga-plateformes américaines commencent à peine à s'intéresser? Premier acte, Binta Diagne avec la signature d'une déclaration de principe.
Principal acquis de cette déclaration d'Abidjan, les plateformes numériques s'engagent à désigner un point de contact unique pour les autorités publiques afin d'assurer une fluidité en cas de signalement d'une dérive. Autre engagement, mettre en place des moyens de modération des contenus partagés dans toutes les langues officielles du réseau des régulateurs des médias francophones, car jusque-là, cet aspect représente une faille, comme l'explique Christian Bossembe, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication en RDC.
Nous avons à peu près 400 langues, nous avons à peu près 400 ethnies. Donc si une seule, deux ethnies se battent parce que l'une pense qu'elle est supérieure à l'autre, elle se refuse de parler lingala ou le français, mais elle se permet de parler en chiluba, elle se permet de parler en kikongo. Donc vous voyez dans quelle mesure on sera dans l'incapacité de réguler cela, puisque nous n'avons pas la même mise sur les plateformes, et les plateformes non plus n'ont pas la capacité de réguler les mots.
La plateforme Google travaille sur 15 langues qui devraient d'ici la fin de l'année être intégrées à ses produits. Pour l'heure, des études sont menées à Nairobi et à Accra. Princila Boage est responsable des institutions panafricaines des affaires gouvernementales et politiques publiques de Google.
On a des chercheurs qui travaillent justement sur le sujet pour essayer d'intégrer les langues locales dans nos systèmes d'intelligence artificielle pour la détection des phrases, de l'incitation à la violence.
Les régulateurs des médias et les représentants de TikTok, X, Google et Meta devraient à nouveau se réunir dans le cadre d'un forum d'ici la fin de l'année. Binta Diagne, Abidjan, RFI.
Abidjan, 7h42.